Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir est jusqu'à 19h. C'est parti pour le débat des grandes voix, Nathalie Lévy, avec autour de vous ce soir Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Judith Vintraube du Figaro.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. 34e jour du conflit sur les retraites. On tient notre calendrier à jour. Les franciliens surtout, ils sont impactés toujours et encore, et plus précisément les parisiens désormais, puisque c'est surtout le métro hein, parisien que ça coince encore sérieusement. Bon, alors la question du jour, l'âge pivot va-t-il être retiré, oublié, rayé comme ça, ni vu ni connu du projet de loi? Qui s'y colle? Gérard Carrérou, allons-y.
Alors, j'ai envie de dire... Non, 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 l'âge pivot n'est pas mort, car il bouge encore. Pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, on avait l'impression qu'il était, il avait pris un sérieux coup dans les mirettes, comme on dit. Mais cet après-midi, j'ai entendu le Premier ministre à l'Assemblée et il ne l'a pas enterré complètement. Alors bon, donc c'est vendredi, ce n'est que vendredi qu'on saura si effectivement... le gouvernement va retirer l'âge pivot.
C'est ça.
Parce que c'est quand même décisif. Parce que,
mais est-ce que vendredi même, on saura, même si Laurent Escure de l'UNSA a dit le gouvernement a 3 jours pour apporter une réponse définitive de cette injonction
Ils ne peuvent pas se dérober plus après vendredi, plus loin que vendredi. Et Laurent Berger a jusqu'au bout été sur la ligne de fermeté concernant cette
âge pivot. Mais Judith Vintraube, d'ici là, d'ici vendredi, il y a demain. Il y a la journée de mobilisation interprofessionnelle. Et si elle fait un flop, entre guillemets, il n'aura peut-être pas envie, du côté du gouvernement, de donner une réponse définitive vendredi.
Alors, déjà, je ne pense pas qu'elle fasse un flop. On voit quand même qu'il y a la mobilisation se renforce.
Oui, mais il y a quand même, plus de transport.
Un peu plus, mais la mobilisation se renforce un peu. Et puis, je vois bien là l'éternel optimisme de Gérard Carrérou qui voit une solution émerger d'ici la fin de la semaine. J'y crois pas du tout.
Ah non, j'ai pas dit ça. Non, pardon. L'âge pivot sera écarté, quand même un des éléments de conflit.
Je l'ai vu vaciller plutôt que pivoter. C'est dans toutes les déclarations des députés de la République en marche jusqu'à Richard Ferrand qui quand même a proposé de le mettre de côté quasiment des députés qui disent on comprend pas du tout pourquoi Édouard Philippe s'y accroche, c'était pas du tout la promesse d'Emmanuel Macron, au cas où on n'aurait pas remarqué hein. Certains députés nous l'ont rappelé en public, donc vraiment ça vacillait là effectivement il reprend du poil de la bête, mais il faut comprendre les termes du problème, ils n'ont pas changé. Si vous ne voulez pas reculer l'âge de la retraite, ce qui est en fait le but
sur le principe
de l'âge pivot,
bien sûr.
Vous tombez sur quoi? Sur ce que propose Laurent Berger et dont ne veut pas, et à mon avis à juste titre, le gouvernement, c'est-à-dire augmenter les cotisations et accessoirement piquer réserves de l'Agirc-Arrco, caisse du régime complémentaire du privé, les 71 milliards des avocats, etc.
Sauf que, Mickaël Darmon, on peut peut-être scinder. On peut peut-être diviser pour y arriver. On peut faire effectivement cette conférence de financement et puis nommer l'âge pivot autrement pour essayer d'arranger tout le monde
on va sûrement déboucher un petit peu sur la créativité obligatoire hein, dans ce genre de moment, c'est-à-dire effectivement, on va trouver dans cette conférence de financement le moment idoine pour pouvoir créer le grand moment de la conférence sociale qui permettra peut-être à tout le monde de sortir par le haut après une dramaturgie
Et
un moment
pas
de suspense. Ça, on verra bien financièrement, bien entendu, mais avec les partenaires sociaux. C'est en cela où ça prend l'allure sociale parce qu'effectivement, c'est l'enjeu. Ce qui me frappe évidemment pour prolonger ce que vient de dire Judith, c'est l'entrée en scène d'une nouvelle force, c'est-à-dire la majorité. La majorité, les députés, l'aile gauche sociale de la Macronie, qui se lâche complètement avec quand même des propos extrêmement étonnants. On sait que les relations ont toujours été compliquées entre une partie des députés marcheurs et Édouard Philippe. Il y avait eu une petite accalmie et là
il redonne de la voix.
C'est reparti.
Exactement.
Et avec en sous-texte la qualification politique aussi de ce moment que l'on vit, c'est-à-dire est-ce qu'il faut arrimer beaucoup plus à droite pour les prochaines échéances ou est-ce qu'il faut régler le conflit avec les syndicats et cœur de cela la capacité d'Édouard Philippe à négocier. C'est la nouveauté de cette semaine.
La nouveauté de cette semaine et les autres, on s'en dit quelques mots dans un instant. Restez là, bien sûr, les Grandes Voix et vous aussi, chers auditeurs.
Vous pouvez également réagir et interpeller les Grandes Voix. Ça se passe au 39-21, le standard d'Europe 1, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h. Et la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, et Judith Vintraube, qui est grand reporter au Figaro Magazine.
Et Frédéric, qui nous appelle du Jura. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue à vous. Alors, cette réforme, on en parle. Et vous, votre regard ce soir, avec cette nouvelle étape, si j'ose dire?
Bah écoutez, moi au départ, j'étais très favorable à un régime universel des retraites parce que effectivement, 1 euro cotisé pour le même droit pour tous, bon bah effectivement, on se demande comment on n'y avait pas pensé plus tôt. Mais avec le temps, on s'aperçoit que la mise en place d'une réforme universelle demande de nouveaux besoins financiers et ça s'avère coûteux. Alors aujourd'hui, on parle maintenant d'une augmentation de la rémunération des enseignants, décaler l'application de la réforme pour certains régimes spéciaux, les syndicats eux demandent la mise en place de nouveaux facteurs de pénibilité, enfin etc. Et je pense qu'on a de plus en plus l'impression que cela sera au détriment des contribuables, des plus jeunes et voir le consensus national.
Alors, donc, je me demande. Oui, vous vous demandez encore là si on parle bien d'une réforme universelle.
Oui.
Merci Frédéric. On va y revenir avec les grandes voix. C'est vrai que on voit bien qu'il y a des concessions qui ont été faites depuis
bien
Noël,
sûr.
Même
soit,
avant.
Soit des concessions dans le temps qui repoussent jusqu'à 40 ans l'application des régimes spéciaux, je pense à SNCF et RATP, sous réserve de ce qui va être finalement négocié. Mais enfin, c'est comme ça partait entre l'UNSA et la SNCF. Je rappelle que Jean-Paul Delevoye, artisan de la réforme, avait dit si c'est pour repousser dans 40 ans, autant dire qu'on ne la fait pas, cette réforme. Ça, ce n'est que du temporaire, à très longue échéance, mais que du temporaire. Et puis, il y a aussi des régimes qui vont rester particuliers, à défaut d'être spéciaux. Mais alors, oui. Édouard Philippe dit non, pas du tout, il y a des surcotisations qui expliquent ça, mais en fait, ça revient quand même à ça. Un euro cotisé ne donnera pas les mêmes droits à tout le monde.
Mais là, on arrive quand même à un paradoxe extraordinaire, c'est que l'addition, comme tu viens de le dire, s'allonge, c'est-à-dire que ça va coûter de plus en plus cher, avec toutes les dérogations qu'il va falloir payer, c'est des milliards. J'ai entendu déjà des premières estimations qui parlent de 10, 15 milliards, enfin donc c'est assez proche des 17 milliards consentis aux Gilets jaunes il y a un an. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où on voit cette addition donc s'alourdir, on n'a plus de financement. Parce qu'au moins, l'âge pivot avait un seul mérite, ça représentait un allongement de côté, donc un financement. Mais si on enlève, effectivement, et c'est le chemin quand même extrêmement difficile, s'ils renoncent à l'âge pivot, il n'y a plus de financement.
C'est ça.
Et il n'y a plus, comme disait Judith tout à l'heure, que baisser les retraites ou augmenter les cotisations.
Et Laurent Berger est d'accord.
Il est d'accord, là-dessus il est d'accord.
Oui, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'au fond, ceux qui réclament un retour à l'origine de la réforme et du projet du candidat Macron devenu président, c'est qu'effectivement il s'agissait d'une réforme uniquement systémique. On ne parlait à aucun moment d'argent, effectivement,
d'une
réforme financière. C'était une réforme politique au nom de l'équité. Une réforme de gauche à l'époque où Emmanuel Macron regardait du côté de la gauche. Ensuite, c'était une réforme qui devait simplifier. On est dans une complexité absolument ubuesque. C'était une réforme qui devait marquer et démontrer à quel point la réflexion des macronistes était tellement plus affûtée, tellement plus intelligente que ce qui avait été fait jusqu'à présent, puisque tout n'était question de méthode. Sur tous ces points, on est totalement à l'opposé du résultat, et c'est la raison pour laquelle ce que l'on vit maintenant marquera durablement la fin du quinquennat.
Alors, petit tour de table, parce que là, il y a quand même encore deux dates, le 9 et le 11, jeudi et samedi, avec donc deux journées de mobilisation interprofessionnelle normalement. On voit quand même un petit peu que le soutien des Français est un petit peu en recul, même s'il est au-delà des 50%. On était à 53% dans le sondage Elab hier. Ça fait moins 4, effectivement, par rapport à il y a 15 jours. On voit bien qu'il y a plus de trains qui circulent, même si pour les Parisiens, ça reste vraiment un casse-tête au quotidien. Qu'est-ce qui peut se passer alors que la CFDT nous annonce qu'elle sera déjà mobilisée en région samedi prochain. Admettons que l'âge pivot soit retiré vendredi. Bon, on peut faire de la prospective un peu.
Mais ça n'empêche pas.
Qu'est-ce qui va se passer?
Ça n'empêchera pas.
Ça veut dire que les autres syndicats
maintiendront, bien sûr. Et il peut y avoir aussi un autre paradoxe, qui peut-être cette prochaine manifestation sera celle qui rassemblera le plus de monde.
Mais
il
si, CFDT et UNSA sont, si la CFDT et l'UNSA sont servies, si j'ose dire, Judith, oui. Michaelet, on terminera.
Quand même, au-delà de la CFDT et de l'UNSA...
Ce qu'on n'entend plus, pardonnez-moi, mais Philippe Martinez, vous l'avez entendu, vous, ce matin?
Oui,
vous l'avez
entendu, il a dit une chose.
Mais on a l'impression que ça se joue quand même à trois.
Oui, entre mais Philippe, pardon, il y a UNSA et...
Judith,
oui, vas-y, Michaël, rappelle ce qu'a dit Martinez.
Philippe Martinez dit une chose qui peut, puisqu'on étudie vraiment les mots précisément dans cette affaire, il a dit qu'il ira effectivement parler de la pénibilité.
Ouais. Donc ça veut dire que
c'est un début...
Et oui.
Peut-être d'assentiment là de aussi. La part d'un Philippe Martinez qui sait très bien qu'à un moment donné il va devoir quand même terminer, en tout cas il ne peut pas penser que cette grève va durer 2 ans.
Exactement.
Donc de toute façon il est obligé lui aussi de trouver d'une certaine manière le moment où très rituellement lorsqu'on termine une grève du côté de la CGT on dit la lutte continue. Mais on sait qu'il va falloir, à un moment donné, quand même arrêter.
Avancer.
Donc il faudra trouver une voie. Oui. Donc, on est dans le moment où chacun va trouver la bonne porte de sortie.
On n'est pas dans un jeu entre le gouvernement et les syndicats. Entre eux, il y a aussi les Français et l'opinion. Et les Français, ils demandent majoritairement le retrait de l'âge pivot. Donc c'est ça qui peut jouer. Et c'est ça qui peut forcer Philippe Martinez à savoir terminer une grève un de ces jours.
Bon, on verra en tout cas, il l'a dit, hein, Laurent Escure, vendredi. On attend la réponse définitive, on verra. On y croit peu. En tout cas, dans ce studio, vous restez avec nous, les grandes voix. On va évidemment revenir sur cette commémoration. Charlie Hebdo, le drame, c'était il y a 5 ans.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous ce soir. Nathalie Lévy, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1 et Judith Vintraube, grand reporter au Figaro Magazine.
Le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo, le journal satirique, était décimée par une attaque djihadiste qui a plongé la France dans l'effroi. 5 ans après, on a posé la question à Joachim Roncin, l'initiateur du logo « Je suis Charlie, la France est-elle encore Charlie ?» Écoutons.
L'électrochoc qu'on a eu en 2015, on se l'est tous pris en pleine gueule. Moi, j'ai posté ce message comme une réaction à ce que je vivais personnellement à ce moment-là. Je l'ai exprimé comme ça. Beaucoup de gens se sont retrouvés là-dedans. Ce qui reste, c'est le sens premier de ce que voulait dire ce slogan. C'est un message qui prône la liberté d'expression et la liberté de la presse. Maintenant, qu'est-ce qui reste fondamentalement de la liberté d'expression? C'est peut-être ça la question en creux. La liberté d'expression est d'autant plus mise à mal qu'il y a encore 5 ans. On le voit par les réseaux sociaux. J'ai pas envie d'aller jusqu'à dire qu'on peut plus rien dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses qu'on dit sont beaucoup plus scrutées. Il faut faire beaucoup plus attention. Le droit à l'irrévérence est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Je trouve ça un peu dommage.
Joachim Roncin, l'initiateur du logo « Je suis Charlie » au micro de Théophile Cossa un peu plus tôt. Vous avez évidemment vécu ces événements, vous étiez sans doute dans les rédactions chacun à ce moment-là, le 7 janvier 2015. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste, selon vous? Personne n'a oublié, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il reste de l'esprit Charlie?
Aujourd'hui, moi, j'étais à New York ce jour-là. C'est encore plus frappant quand on vit un événement qui tape au cœur notre société, notre pays. Et quand on est à l'étranger, j'ai tout suivi sur les télévisions américaines et c'était étonnant et formidable. Et ça vous prenait aux tripes de voir ces foules et de voir tous ces chefs d'État qui étaient venus du monde. C'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai très peur et je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit là.
Jacques
et ce que disait tout à l'heure à votre antenne aussi,
Chloé Verlac,
j'ai très peur que cette on est régressé depuis, et que ce combat de Charlie pour la liberté absolue, la liberté de tout dire quand il fallait le dire, on ne peut plus le faire tout à fait pareil. Et je crains avec Chloé Verlac que les extrémistes sont en train de gagner du terrain, soient en train de gagner du terrain aujourd'hui. Dans notre pays, j'en suis malade.
Le droit au blasphème, la laïcité, la liberté d'expression, tout ça.
Rhys lui-même parle de nouvelles censures qui ont remplacé.
C'est la une de Charlie Hebdo, on va la montrer.
Absolument.
Nouvelle censure, nouvelle dictature, le dessin de Coco, bien sûr, ce smartphone géant qui affiche les logos des grands réseaux sociaux et qui écrase la langue et les bras d'un dessinateur avec ce titre, donc nouvelle censure, nouvelle dictature.
Oui, on a quand même l'impression depuis 2015, la dénonciation de « ouvrez les guillemets, l'islamophobie, fermez les guillemets » devient de plus en plus publique, assumée. On se rappelle la manifestation du 10 novembre, les cris à la Wagbar, les étoiles jaunes qui, soi-disant, n'avaient rien à voir avec une étoile juive pour montrer que l'État français lui-même était islamophobe. Les gens qui combattent l'islamisme risquent toujours leur peau. Je pense à Zineb El Razoui notamment, qui n'était pas là le jour de l'attentat contre Charlie. Miraculeusement, elle était en vacances, elle y a réchappé. La façon dont Yacine Bellatar, ex monsieur banlieue d'Emmanuel Macron, a salué, lui a souhaité nouvel an en disant Inch'Allah, t'es plus là en 2020 sur Twitter. La façon dont Lajli, réalisateur ô combien en vogue des Misérables, qui a fait découvrir les problèmes de banlieue à Emmanuel Macron, a insulté cette même Zineb El Razoui. Je trouve qu'il y a des tas de signaux inquiétants. Le moins inquiétant n'étant pas cette tendance de certains médias à psychiatriser les attentats,
les meurtres. Les assaillants.
Ça
veut dire quoi? Ça veut dire, Michaël Darmon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur a gagné? Ça veut dire que c'est le religieusement correct?
Le règne du religieusement correct, c'est effectivement ce fameux politiquement correct, et je dirais même le progressistement correct, si je puis dire, parce que tout à l'heure Gérard disait la peur des extrémistes qui progressent. En réalité, cette censure vient justement de cette on va dire pensée progressiste installée depuis quelques années, qui est au pouvoir d'ailleurs et qui parfois a souvent donc produit ces schémas. Mais moi, ce qui me marque lorsqu'on réfléchit à ce qui s'est passé donc chez Charlie Hebdo, c'est-à-dire une rédaction essentiellement basée sur les caricatures, fondée sur les caricatures, eh bien, c'est quand même ce qui s'est passé en 2019, quand le New York Times a décidé
lui aussi,
qu'il arrêterait
dans ses colonnes,
de publier des caricatures de presse suite à un dessin qui a fait polémique, jugé antisémite, sur la politique de Trump et Netanyahou. Et depuis, on voit bien que c'est un mouvement également planétaire. Beaucoup de journaux ont arrêté la caricature de presse, et ça, c'est effectivement très inquiétant, et il faudra réagir.
Avec en plus une dérive de la gauche en particulier. J'ai cité la manif à laquelle a participé Jean-Luc Mélenchon, la manif contre l'islamophobie.
C'est vrai. Merci les grandes voix. Merci les grandes voix.
Merci.
Judith Vintraud, Michaël Darmon, Gérard Carrérou, merci à vous.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy. C'est le journal de 19h d'Isabelle Millet dans une seconde, avec la réforme des retraites qui fait aussi débat à l'Assemblée. Le point complet, c'est avec elle.
Et vous écoutez votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy sur Europe 1.